vendredi soir, on avait... Je sais pas si ça marche.
Pour les enceintes, c'est pas branché.
Ah oui. On va le mettre, ça va m'éviter de parler trop fort. Vendredi soir, quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression qu'on était dans une course au trésor. Et il y avait plein de gens qui étaient là et c'était vraiment agréable. Et c'était pour rappeler un petit peu ce qui s'était passé à la colo. Et le thème de la colo, si je ne me trompe pas, c'était les pirates. Car là où est ton trésor? Bien, c'est de ça que je voulais vous parler. Et même les serviettes étaient adaptées au repas. Il y avait une carte de trésor et on trouvait des trésors. Et c'est un petit peu la même chose dans les paraboles de Jésus, parce que toutes les paraboles de Jésus veulent forcer les auditeurs à prendre position sur la personne de Jésus et sur sa mission. Et elles sont vraiment des témoignages du Christ sur lui-même. Parce que... Excusez-moi. Décidément. Tous les... Non, c'est pas Dieu. Ça pourrait, hein. Et donc, les paraboles... sont vraiment des témoignages du Christ sur lui-même. Et si une parabole illustre la bonté de Dieu, c'est la bonté active de Jésus qui est indiquée. Si une parabole parle du royaume, eh bien c'est Jésus qui se dissimule sous cette parabole, dont il est le contenu caché. Alors, il y a deux paraboles qui nous enseigne la façon dont... Je suis vraiment désolé. Oui, vas-y, tiens. Et donc, il y a deux paraboles qui nous enseignent la façon dont doit vivre un disciple. Eh bien, c'est la parabole du trésor caché et la parabole de la perle de grand prix. Et je me souviens, il y a quelques années... Patrick et Joanne avaient fait un trésor pour leur fils Thaddée. Je le raconte toujours parce qu'elle m'a vraiment marqué, cette histoire. Et je pense que c'est un jeu de piste pour arriver à un trésor. Et un dimanche matin, je vois arriver Thaddée avec une petite pierre avec des brillants dedans. Il était persuadé que c'était de l'or. Et il vient me voir et puis il me dit « Regarde, j'ai trouvé un trésor ». Et il dit, il faut surtout pas le dire à personne. Je dois le dire à personne. Papa m'a bien dit qu'il fallait pas que je le dise à personne. J'étais flatté qu'il vienne me le dire. Et il était tout excité d'avoir sûrement cherché pendant quelques heures. Je sais pas combien de temps ça avait duré, ce jeu de piste, mais il avait trouvé son trésor. Et je pense qu'on doit avoir cette idée en nous d'être tout excité d'avoir trouvé ce trésor. Et cette histoire, elle résonne dans les oreilles des auditeurs, parce que dans toute l'Antiquité, les perles, les trésors étaient des articles très recherchés, et même des plongeurs, et on le voit encore, allaient les pêcher dans la mer Rouge. Et ensuite, elles étaient bien sûr montées en collier, c'était une grande valeur. Il y a même l'empereur César qui va offrir à la mère de Brutus une perle qui coûte à l'heure actuelle 250 000 euros. Vous imaginez une petite perle comme ça. Donc c'était, quand Jésus raconte cette histoire-là, c'est quelque chose qui marque les esprits. Et il faut savoir que Israël, c'était vraiment le lieu de passage entre l'Égypte et puis la Syrie. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient de l'argent? Mais ils l'enterraient. Ils l'enterraient dans un champ, dans un endroit. Et puis, il suffisait que pour une raison ou pour une autre, mais ils oublient, qu'ils n'en parlent pas à leurs enfants, et puis qu'ils meurent, et les trésors. Et il y avait beaucoup de trésors. Et c'était presque un sport national que de creuser partout pour trouver des trésors. Alors voilà cette histoire donc dans, en Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors dans ces deux histoires, on reste un petit peu sur sa fin parce que la chute est toujours un petit peu brutale d'abord. Et dans celle du trésor, on aimerait bien savoir ce que va faire de son trésor la personne qu'il trouve ou de cette perle, ce que va faire le marchand. On imagine que le gars qui trouve le trésor, ben, il va se construire un grand palais et puis il va être super heureux de ça. Et donc et il va peut-être éviter, je ne sais pas, un problème dans sa famille ou éviter une faillite. Pas du tout. Jésus, comme toujours, eh bien, lorsqu'il évoque des histoires comme ça, eh bien, va surprendre ses auditeurs. Il va insister sur toute autre chose, sur autre chose de ce qu'il attend et ce que peut-être nous attendons. Alors, sur quoi va-t-il insister ? Alors, il y a des traductions qui disent dans l'homme qui a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il y a des traductions qui sont un petit peu plus fortes. On dit qu'il est ravi de joie. C'est-à-dire, être ravi, c'est être pris. Et puis, par cette voie, on parlait de la joie ce matin, et c'est ça, être ravi de joie. Et lorsque une grande joie, une joie qui dépasse toute mesure, saisit un homme et une femme, eh bien, elle va l'emmener, elle le soulève, va l'empoigner jusqu'au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Et elle va terrasser véritablement son bon sens. Tout va pâlir devant l'éclat de la découverte de ce trésor. Et aucun prix ne va être trop élevé. Et il va de soi, bien sûr, qu'il va abandonner spontanément ce qu'il avait pour acheter ce champ ou pour acheter cette perle dont il sait que c'est un véritable trésor. C'est pas du tout le sacrifice que les deux hommes font de leur bien qui constitue le centre de la parabole, mais la raison pour laquelle ils le font. Ils ont trouvé un trésor. Je pense que à la colonie, des jeunes qui se sont donnés dans le baptême ont trouvé un trésor, comme nous l'avons trouvé pour ceux qui se sont donnés au Seigneur il y a plus longtemps. Et donc ça constitue vraiment le centre de la parabole. Et cette découverte, c'est tellement important qu'ils sont subjugués par cela. Et la bonne nouvelle, le fait de trouver ce trésor, va subjuguer ces gens. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent la façon dont ils ont été ravis de joie par la découverte du Seigneur et que c'est comment cette bonne nouvelle a agi sur leur cœur et ce qu'elle a provoqué dans leur vie. Elle va provoquer, comme ces gens qui vont tout vendre pour avoir ce trésor, elle va provoquer l'abandon de soi-même et même du plus passionné. Tout le reste perd sa valeur. Tout le reste perd sa valeur. Tout est relatif. Alors, à quoi ressemble la vie de ces hommes qui sont possédés d'une telle joie ? Eh bien, d'abord, on le verra, il y a beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament. Lorsque les gens sont saisis par l'autorité et l'amour de Jésus, il y a un abandon. Ils vont se mettre à la suite de Jésus. Et c'est pourquoi leur vie va être caractérisée d'abord par l'amour qu'ils ont pour Jésus, notre maître serviteur, et parfois en silence, parfois sans éclat de trompette, c'est ce que dit Matthieu en chapitre 6, verset 2, Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi. Lorsque tu découvres Jésus-Christ, ne sonne pas forcément la trompette devant toi. C'est un amour qui ne va pas collectionner les trésors sur terre, mais il remet ses trésors entre les mains de Dieu. Et c'est un amour qui ne connaît pas de limite, tel celui qui est décrit, vous souvenez, dans la parabole du bon samaritain. Il n'y a pas de limite. Vous voyez, quand la personne qui demande à Jésus c'est quoi aimer son prochain, le gars qui lui pose la question, c'est un véritable théologien. C'est quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu, c'était quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament par cœur. Et il va s'adresser à Jésus, qui lui ne vient pas d'une tribu religieuse, c'est un laïc, Jésus. Et il va demander à Jésus quel est le chemin de la vie éternelle. Et bien sûr, ce chemin de la vie éternelle, elle commence tout simplement par un trouble. La personne qui pose la question, c'est quoi l'amour pour le prochain, eh bien, la personne est troublée. Et Jésus va lui raconter cette histoire du bon samaritain. Alors, nous avons plein de bons samaritains qui veulent trouver Jésus. Et la réponse est encore surprenante. Il explique, vous vous souvenez de l'histoire, hein, tous ces gens qui passent, le prêtre, les gens qui laissent de côté cette personne qui est blessée. Et la réponse de Jésus est extrêmement surprenante. Il lui dit, fais cela et tu vivras. Vous vous rendez compte, Jésus ne va pas faire toute une explication comme j'essaie de faire ce matin sur l'amour ou sur la joie, mais il lui dit, fais-le. C'est quelque chose d'actif. Et ça semble plutôt désigner l'agir humain comme étant la voie de la vie éternelle. Je vous expliquais qu'en vacances, on était dans les Açores et ils ont une vision, ils sont vraiment intéressé par le Saint-Esprit et leur action sur le Saint-Esprit, c'est de faire une agape. Et bon, c'est devenu une fête populaire, mais à l'origine, c'est d'aimer ceux qui sont autour d'eux et de leur donner à manger. Agis, fais cela et tu vivras. Alors, toute la science théologique, toute la connaissance biblique ne sert à rien si la conduite de notre vie n'est pas déterminé par l'amour de Dieu. On peut connaître la Bible par cœur, avoir les versets en tête et faire toutes ces choses. Si notre vie n'est pas dans la joie et cette joie ne se traduit pas par de l'action, eh bien, on passe à côté de quelque chose. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il y a l'expression « on doit porter sa croix ». Alors, je crois qu'elle est souvent mal comprise. Nous prenons croyons la plupart du temps qu'il s'agit de supporter patiemment les épreuves que Dieu nous envoie. Mais cette interprétation n'est absolument pas attestée par la parole de Dieu. Et je pense que c'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas non plus le fait d'être prêt au martyr. Cette expression évoque simplement, au contraire, un fait très concret. C'est l'instant où le condamné à mort, notamment Jésus, charge sur cette épaule, sur ses épaules, ce morceau de croix, et donc pour marcher, pour prendre la direction entre deux haies de curieux et de gens qui vont l'insulter, le maudire, et une marche effroyable au milieu d'une foule hurlante, d'une foule qui le méprise et qui le couvre d'injures et de malédictions. Et ce qui est horrible, c'est que dans cette marche, Jésus se sent rejeté. Et ça peut être ça, porter sa croix, c'est penser être rejeté par ceux qui ne partagent pas les mêmes pensées et la même vision que nous avons de notre Seigneur. Et c'est souvent d'être livré sans merci aux outrages et aux mépris. Tous ceux qui me suivent, dit Jésus, doivent pouvoir se mesurer avec une vie qui ne sera pas aussi facile et aussi plaisante parfois à cause de notre entourage. Voilà ce que c'est porter sa croix. C'est malgré la différence que nous pouvons avoir dans notre mode d'action, malgré peut-être les critiques, eh bien, c'est de continuer et avoir la confiance en nous, la joie en nous, malgré tout. La joie de savoir que nous avons déterré un trésor et que nous avons tout donné pour lui. Il y a un père de l'Église au IIe siècle qui a dit « La magnifique providence du Maître, l'effet ressuscité et l'unique grain se multiplie et porte des fruits. » L'unique grain que nous avons en nous porte des fruits. Le nombre de gens qui se donnent au Seigneur n'a jamais été aussi fort que dans les périodes où les chrétiens étaient persécutés et où ils restaient confiants de leur Seigneur. Alors, c'est vrai que dans nos actions, eh bien, nous avons tous à être à l'œuvre. Le chrétien qui a trouvé ce trésor, il ne peut pas le garder pour lui. Ce n'est pas un trésor qu'on met en banque et puis on attend que ça rapporte, non. Mais souvent, on a un rôle à jouer. Et souvent, un grand nombre de croyants s'imaginent que le travail religieux, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans l'Église et dans le monde, est réservé à quelques-uns seulement. Et on dit souvent, ah, c'est l'histoire de l'évangéliste, c'est l'histoire du pasteur ou c'est l'histoire du responsable. Toute l'Église a été désignée, homme, femme, pour porter et annoncer le trésor que vous avez découvert. Et c'est, je pense que c'est une erreur de penser que le plus humble des serviteurs de Dieu, eh bien, n'a pas la responsabilité directe de propager ce trésor. Et si, encore une fois, le christianisme s'est répandu aussi rapidement, c'est, quand vous lisez l'histoire des mouvements religieux, c'est un des mouvements qui s'est propagé le plus rapidement, c'est que ce n'est pas simplement dû au travail de quelques chefs de l'Église ou quelques ministres de l'Église, mais c'est aussi grâce au concours des fidèles anonymes qui ont propagé la parole de Dieu. C'est dire tout simplement que dans une communauté, dans une assemblée, eh bien, tous sont appelés à rechercher ce trésor et à le propager. Et c'est ce qu'on appelle, d'un nom un petit peu pompeux, le sacerdoce universel. Et dans la première lettre de Pierre, on lit « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous en maison spirituelle, formez un saint clergé et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Voilà quel est le principe de découverte de ce trésor. Les gens ne vont pas rester, ils ont découvert un trésor, ils sont ravis de joie, ravis au bon sens du terme. Et une assemblée qui est vivante, eh bien, c'est où des fidèles vont travailler tous ensemble à la même œuvre. Ça peut être des aides immédiates. Pour des gens, ça peut être des groupes de jeunesse, on l'a vu vendredi, tout ce qui se fait dans l'Église, chacun a vraiment une responsabilité et chacun a un don. On ne peut pas entendre « j'ai pas ma place dans l'Église » ou « j'ai pas ce don-là, je suis pas vraiment fait pour ça ». Nous avons tous quelque chose à apporter à l'Assemblée et à ceux qui nous entourent. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous demande d'être des ouvriers dans sa vigne et d'être la lumière du monde. Alors il faut qu'il nous préserve parfois de la paresse, qui nous pousse souvent à nous reposer sur les autres et à attendre tout des autres. Il faut que nous sachions bien que nous avons un trésor au fond de nos cœurs et qu'il faut que les gens s'en aperçoivent et le donner aussi aux autres. Hein. Parce que ça, c'est la description du royaume de Dieu. Vous avez un trésor, il faut le partager. Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le verset 51 nous dit, avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris toutes ces choses? Et voilà ce que répondent les disciples, oui. Alors j'espère que ce matin, nous avons compris ce trésor que nous avons trouvé. Parfois, on vit dans la vie comme si on ne l'avait pas trouvé. On est inquiet pour des choses, et je parle de moi ici. On est inquiet pour des choses qui parfois n'en valent pas la peine. On s'inquiète pour des tas de choses. Et en fait, finalement, c'est un manque de confiance en Dieu. Et là, c'est un peu une faille dans la sainteté que Dieu essaie de nous faire parcourir. Cherchons ce trésor. Pour la plupart, nous l'avons trouvé, nous l'avons dans nos poches, nous l'avons dans notre cœur. Alors, essayons de l'amener à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui en ont tellement besoin, et pas avec une vaine gloire, mais simplement en disant, Seigneur, aide-moi à donner ce trésor. Vous savez, des fois, on est heureux pour pas grand-chose. Je l'ai déjà raconté, cette histoire. Une fois, j'ai gagné un concours en présentant un cas clinique et j'ai reçu 12 bouteilles de vin rouge. Et je me dis, oh, quel beau jour. Et quand je réagis à ce que c'est vraiment ridicule par rapport au trésor que nous avons dans nos vies et dans notre cœur. Et on n'est parfois même pas ému pour ça. On commence la journée en disant, une journée, ça va pas être terrible. Mais comment est-ce que, en tant que chrétien, on peut dire qu'une journée ne peut pas être terrible? Bien sûr, il y a des difficultés dans la vie, il y a des soucis, c'est sûr. Mais nous devons avoir la confiance que nous avons un trésor dans nos vies. Est-ce que vous vous sentez mieux le vendredi à 18h parce que vous allez savoir qu'il y a le week-end, ou le lundi soir en disant, il y a toute la semaine à passer? Est-ce que vous vous sentez mieux quand vous dites, j'ai un trésor, j'ai le Seigneur avec moi? Réfléchissez à ça et posez-vous la question que Jésus a posée aux disciples. Avez-vous compris toutes ces choses? Amen.